un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma
moto. Zoulet, peut-être.
Je regarde bien Alex Zoulet.
Avec l'attaque d'Anti-Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché.
Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. C'est Baptiste ce soir à la présentation, une fois n'est pas coutume, en l'absence de nos présentateurs habituels, pour ce numéro hors série, un numéro spécial Giro au soir de la 12e étape. La première avec un vrai col, une sorte finalement d'antipasto du gros programme qui nous attend d'ici l'arrivée à Vérone dans 10 jours et qui sera une orgie de montagne. Avec moi ce soir, du coup, pour débriefer la course depuis dimanche dernier, on a déjà Charles. Bonsoir Charles.
Salut Baptiste, bonsoir à tous.
Il y a également Théo. Salut Théo.
Bonsoir à tous.
Et enfin, Greg. Salut Greg.
Bonsoir.
Et bonsoir à vous, chers commissaires, et à vous qui nous écoutez. Alors, on a eu la première étape dans les Alpes, hein, entre Cuneo et Pinerolo aujourd'hui, avec la victoire de Cesare Benedetti, le coureur de la Bora, et un changement de maillot rose, puisque c'est le Slovène Polank qui a pris le maillot rose à son coéquipier chez UAE, Valerio Conti, qui était en rose depuis une petite semaine. Donc, on est passé finalement d'un Giro des sprinteurs avec Conti en rose au Giro des grimpeurs avec cette fois-ci Yann Polank. Un petit mot quand même du coup, puisqu'on va beaucoup débriefer la montagne bien sûr, mais un petit mot d'abord sur le sprint. On avait eu avant l'étape d'aujourd'hui une victoire de Arnaud Démare, bien sûr, mardi sur la 10e étape, et puis le lendemain de Caleb Ewan sur la 11e étape. Caleb Ewan qui, aussitôt après l'arrivée, a abandonné, a dit que son Giro était terminé, il a abandonné la course. De même d'ailleurs que Elia Viviani qui repart du Giro du coup sans victoire d'étape. Et voilà, cette attitude des sprinteurs a déplu. Ils sont venus les 10 premiers jours, ils ont fait leur petit truc, et puis plus de montagne, plus de sprint plutôt, place à la montagne, et du coup ils s'en vont. Ça a pu être perçu comme un manque de respect envers la course. Qu'est-ce que tu en penses, Théo? Est-ce que toi aussi, tu trouves que c'est une attitude un peu dommageable, voire même irrespectueuse de ces coureurs?
Non, pas vraiment. Le cyclisme, c'est leur passion, mais c'est aussi un peu leur boulot. Et vraiment, objectivement, quand on s'appelle Caleb Ewan et qu'on a des objectifs plus tard dans la saison, pourquoi aller se farcir 10 jours dans les montagnes pour une seule opportunité de gagner au sprint? En plus, contrairement au classement par points du Tour de France, le classement par points du Tour d'Italie est vraiment moins prestigieux. Je les comprends personnellement, je comprends pourquoi ils font cela, mais c'est sûr que pour la course et pour l'organisateur, ça fait un peu ballot. C'est aussi dû au parcours, tout simplement.
Alors, tu pars du classement par points, il suffit de le lire pour voir qui y reste. C'est donc Arnaud Démare qui a le maillot cyclamen devant Pascal Ackermann. Et ensuite, on a déjà Carapaz à la troisième place, puis on a un Davide Cimolai, et après, on a quasiment plus que des grimpeurs. Il y a vaguement Nizzolo et Belletti, les seconds couteaux du sprint italien qui sont encore là. Grosso modo, il reste Démare et Ackermann. Pour toi, Charles, aussi, c'est logique finalement d'avoir vu les autres gros sprinteurs. Il y a Gaviria aussi qui avait abandonné un peu plus tôt. C'est logique de les avoir vus disparaître de la course?
Ouais, je trouve ça logique aussi. Et je pense que ça a plus ou moins été fait exprès. En fait, ce parcours un peu coupé en deux qui permet aux organisateurs du Giro d'avoir ces sprinteurs au départ. Je pense que si le parcours avait été un peu différent, les mecs ne seraient tout simplement pas venus pour la plupart. Donc au final, entre ne pas les avoir du tout ou juste avoir un Viviani et un Démare et avoir un gratin un peu plus fort, entre guillemets, à la limite, c'est quelque chose qui arrange tout le monde, quoi. Les organisateurs qui ont eu les meilleurs sprinteurs au départ de leur course et les sprinteurs qui peuvent enchaîner sur la préparation, sur le Tour de France, sans trop puiser dans les réserves, quoi.
Oui, parce que ce qui est vrai aussi, c'est que les sprinteurs qui ont abandonné, à savoir Gaviria, Viviani ou Ewan, puisque c'est de dont on parle, font le Tour de France, ce qui n'est pas le cas d'Ackermann et Démare qui, eux, ne feront pas le Tour en juillet, donc peuvent se permettre peut-être aussi d'aller un peu plus loin. Greg, pour parler maintenant des victoires au sprint, mais des victoires en échappée. On avait vu Valerio Conti l'autre jour rouler à fond c'était le jour de la victoire de Masnada pour lui se parer de rose. Aujourd'hui, on a vu un peu la même chose avec Yann Polank et finalement ce maillot rose qui reste chez UAE au terme d'une échappée victorieuse. qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette tactique? À un moment, on a même vu un peu les Eurolais derrière, on n'a pas trop compris pourquoi. Mais au final, c'est quand même bien joué de leur part, non?
Mais je pense que c'était leur plan. Alors peut-être qu'ils avaient vu que bien, le maillot rose de Conti donc, se sentait peut-être pas très bien. Ils avaient des doutes sur la capacité à garder le maillot à la fin de l'étape. Donc ils ont placé Polanc, comme un bon grimpeur, qui a déjà fait quelques classements sur le Giro, sur les tours. Et donc, c'était bien vu de leur part, c'est échappé fleuve. Alors, on a vu l'écart monter, ça a un peu hésité derrière. On s'est demandé combien de temps on allait leur laisser d'avance. Mais au final, ils en sortent les grands gagnants, car avec 4 minutes d'avance finalement ce soir, Polanc, on se posera peut-être la question à la fin, il peut garder le maillot un petit moment. Mais c'est vrai que c'est un joli coup de la part du AE, qui a bien calculé pour garder le maillot ce soir. C'était, je pense, leur objectif ce matin.
Alors, tu dis qu'on a laissé peut-être trop de temps à Polanc. Ce soir, Polanc, il a 4 minutes d'avance au général sur Roglic. Il a quasiment 6 minutes sur Nibali, Mollema, 7 sur Machka. Est-ce qu'on lui a laissé trop de temps? Théo, t'en penses quoi?
Si c'était le Polanc de 2017 qui gagne à l'Etna dans une échappée, mais quand même avec beaucoup de vent, pourquoi pas? L'an dernier et cette année, il a monté un peu moins de force et le Giro est tellement difficile. Que 4 minutes pour un Polanc, ça me paraît vraiment pas. Je pense que déjà ce dimanche, il sera plus maillot rose.
Alors, 4 minutes sur Roglic, mais tu as quand même du temps sur les autres. Toi aussi, Charles, tu penses que le Giro est trop dur? Polanc, pour rappel, tu parlais de sa victoire sur l'Etna en 2017, Théo. Tu as raison. Et cette année-là, il fait quand même 11e du Giro. On sait que sur le Giro, Charles, je crois que tu es un peu de cet avis-là aussi. Au-delà de la 8, 9e, enfin, à partir de la 8, 9e place. Bon, des fois, c'est un peu n'importe quoi. Donc, c'est pas complètement. Un Polanc, ça reste dans ses cordes. Et puis, ces minutes d'avance pourraient bien l'aider, non?
Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que, heureusement, que la track Segafredo a mis en marche à un moment, parce que le danger était quand même assez réel. Alors que...
La 7e place de Mollema.
Ouais, enfin, j'en rigole.
Il est
mais
jamais trop tôt pour la défendre.
Je trouve ça assez risible, entre guillemets, parce que. Encore ces situations-là, enfin, à 2 jours de l'arrivée, on peut les comprendre, mais là, quand tu n'as pas encore eu un seul col, c'est quand même assez compliqué à comprendre, et surtout quand Mollema saute assez rapidement en fait, dans la bosse en question. Donc, bref, blague à part, avant l'étape, j'aurais pu dire que ouais, laisser 5 minutes à Polanc, ou 10 minutes, on en a même parlé d'ailleurs pendant l'étape, c'était compliqué, mais je ne sais pas ce que tu en as pensé, Baptiste, mais moi, je l'ai trouvé très fatigué à l'arrivée, Polanc. Donc j'y crois pas trop en fait.
C'est vrai qu'il a cédé un peu de terrain. Après, je pense que Polanc, c'est pas forcément un coureur qui apprécie les pourcentages qu'on a eu aujourd'hui, qui sont des pourcentages très forts. Je pense qu'il préfère les cols un tout petit peu moins pentus. Bon, c'est pas forcément sur le Giro qu'on les trouve, mais voilà. Et puis aussi, c'est sans doute parmi ceux de l'échappée, celui qui a fourni le plus d'efforts, puisque finalement, c'est celui qui avait le plus intérêt à en fournir et à assurer un train dans le col, dans la principale difficulté du jour. On l'a beaucoup vu faire le tempo et les autres un peu profiter, attendre de lui qu'il fasse l'effort, puisqu'ils savaient tous que c'était lui qui avait le plus intérêt à rouler et à assurer un tempo. Il avait la pancarte, quoi. Donc, je pense que ça peut expliquer aussi certaines difficultés, parce qu'il n'y a pas forcément de raison qu'il grimpe moins bien que d'autres qui étaient avec lui dans l'échappée. Évidemment que pour Polanc, un top 5 final reste compliqué, même avec ce petit matelas d'avance. Mais vu qu'il n'y a pas tant de coureurs de ça qui jouent entre les places entre 8 et 15, ça peut tout à fait lui sourire à nouveau. Mais puisqu'on parle de tout ça, et puisque vous avez parlé des Trek et de Mollema, on peut parler justement maintenant des autres coureurs qu'on a beaucoup regardé aujourd'hui dans cette première étape des Alpes, les principaux favoris de l'épreuve. Si les Trek et Mollema ont roulé, c'est peut-être pour défendre la future 8e place du Néerlandais, c'est peut-être aussi pour distancer certains coureurs déjà, hein, puisqu'il y a quand même des coureurs qui ont perdu un peu de temps, notamment le champion de Luxembourg, Bob Jungels, qui a perdu quasiment 3 minutes, je crois, sur le principal peloton des favoris. Et surtout, Greg, on a vu deux coureurs gagner une petite trentaine de secondes sur leurs adversaires directs pour un top 10, top 5 final. Ces coureurs, c'est Miguel Angel Lopez et Mikel Landa.
Oui, c'est peut-être la bonne surprise de cette montée. Surtout qu'au tout début, visiblement, on n'a pas très bien compris pourquoi, mais Lopez était plutôt à l'arrière. On l'a vu un temps en arrière, puis on l'a vu attaquer. C'est un peu lui qui a dynamité la course à ce moment. Et ça a été un moment important parce que voilà, c'est un peu ce qui a lancé, ce qui a animé la course pendant cette montée et qui a forcé aussi les autres leaders à réagir. On a vu un temps, Maika, on a assez fort essayé de les suivre, Nibali aussi. C'était donc vraiment la partie intéressante. Après, ils ont bataillé. Alors, c'est peut-être la question qu'on va se poser. Ils ont vraiment bataillé, ils ont fait beaucoup d'efforts pour au final gagner seulement 30 secondes. Et ils avaient déjà beaucoup de retard. Mais Ce qui peut rendre assez optimiste, c'est qu'ils ont un tempérament offensif et on peut penser qu'on les reverra à l'attaque les jours suivants, surtout que là on arrive dans leur terrain de jeu, celui de la montagne.
Charles, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le jeu en valait la chandelle?
Ouais, je pense, enfin, pour une raison toute simple, c'est que derrière Lopez et Landa, les leaders se sont aussi mis à la planche. On n'est pas une situation où on avait 5-6 équipiers qui roulaient et les cadors bien confortablement assis au sein du peloton. Là, on a vu que Maika s'était découvert. À un moment, on a vu aussi Nibali sortir. Roglic a fait un peu de patinette, mais on a aussi remarqué que sur la plaine, ça tournait. En fait, on voyait les mecs qui se relayaient. Donc, je pense pas que ce soit des efforts superflus, d'autant plus que Lopez et Landa ont récupéré un coéquipier pour Landa et je crois deux pour Lopez. Donc, finalement, ils sont restés aussi assez longtemps. Ouais, ils sont restés aussi longtemps, finalement, dans les roues et ils ont juste reproduit un effort dans le mur final, quoi.
C'est vrai qu'il y a eu des coéquipiers pour Landa, pour aider Landa et Lopez. À l'inverse, Théo, il y a quelqu'un qui n'avait pas de coéquipier dans le groupe des favoris derrière. Et c'est un petit peu inquiétant pour la suite du Giro, c'est Primoz Roglic.
Ouais, Primoz Roglic qui s'est retrouvé isolé dès que ça a commencé à visser. Je ne sais plus qui c'était son dernier équipier, si c'était Bouman ou si c'était Toulouk.
C'était Toulouk, je crois.
Mais en tout cas, voilà, il n'a pas d'équipier qui est là dans un peloton de 40, 45, voire 50 coureurs. Et c'est même pas la première vraie étape de montagne du Giro. Donc vraiment, je pense qu'au bout de 5 km de la montée, il a dû se dire que les 10 prochains jours allaient être longs. Alors aujourd'hui, ça ne lui a pas porté préjudice. Mais bon, il suffit qu'il crève sur la portion de plat et le Giro était terminé pour lui. Donc il va vraiment devoir passer 10 jours avec un sens tactique exceptionnel et que tout se déroule bien pour lui. Et franchement, je pense que ça va être compliqué.
Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question, Greg, je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand on voit les Jumbo aujourd'hui aussi mal accompagner Roglic au premier col venu, sérieux, au premier col digne de ce nom, on se dit que dans l'étape du Gavia et du Mortirolo, Roglic, il va en chier, quoi.
Ah, il sera peut-être même tout seul, peut-être dès le début du Gavia. Et ça va, on peut espérer que ça va peut-être pousser les autres coureurs à bien être un peu plus offensifs et à changer du scénario. C'est vrai qu'on a malheureusement la mauvaise habitude d'avoir une équipe qui cadenasse tout sur certains tours, notamment l'habitude de la Sky qui bloque tout et qui bloque un peu les initiatives. Et là, on va se retrouver dans un scénario totalement différent, donc peut-être plus intéressant avec un leader qui paraît pour l'instant être le plus fort, mais qui peut très vite être isolé avec des étapes, avec des... Enfin, on reparlera peut-être des profils à la fin de l'émission, mais
tout à fait.
Des profils très montagneux, des montées très difficiles, et il faudra gérer le moindre ennui. Roglic risque d'être en difficulté, et on peut espérer que ça incite les autres à mettre un peu le feu à la course et à nous offrir quelques belles étapes bien animées.
Mais alors, du coup, est-ce que tu as des noms en tête, Greg?
Déjà, j'espère que les Lopez et Landa vont continuer parce qu'ils ont beaucoup de retard à être offensifs. Mais évidemment, celui qu'on attend peut-être, c'est Nibali. Notamment, visiblement, parce que Yates a l'air un petit peu juste pour moi pour l'instant. En sachant qu'il y a encore un contre-la-montre final qui paraît à l'avantage de Roglic en dernière étape. Donc, il faudra non seulement prendre du temps, mais aussi prendre de l'avance à Roglic en passant ce dernier contre-la-montre.
Charles, toi aussi, tu penses, je crois, que Roglic va être en situation de faiblesse. Qui tu vois, du coup, pouvoir essayer de profiter de cet isolement de Roglic par, du coup, des offensives de loin, ou soit peut-être par la force du nombre. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu d'autres leaders bien mieux accompagnés que Roglic.
En termes de nombre, je pense que vous serez d'accord avec moi. Il y a pour moi deux collectifs qui se... Comment dirais-je, je perds mes mots, qui se démarquent, c'est la Mitchelton et la Movistar. Je pense que c'est les deux formations qui sont capables de justement créer un surnombre et de renverser la course. Après, la question sera de savoir est-ce que les leaders seront aussi au niveau. Ça, on ne sait pas vraiment, mais en tout cas, je trouve que pour finir là-dessus, c'est le scénario rêvé de tout suiveur. En fait, un leader, le mec qui est pour l'instant le plus fort de la course, qui a l'équipe la plus faible, en termes de spectacle, je ne pense pas qu'on puisse espérer mieux.
Alors c'est vrai que tu parles de ces collectifs-là. Pour le coup, on a vu Carapaz suivre une première attaque de Lopez dans le principal col de la journée, puis Landa passer à l'offensive pour les Movistar. À l'inverse, c'est vrai que les Mitchelton étaient très présents, mais que Yates, c'est lui, fait très discret. On attendait peut-être une attaque de sa part dans le radar final qui semblait correspondre à ses qualités. Ça n'a pas été le cas, il est resté sagement dans les roues. Donc toujours un peu dans des interrogations autour de sa forme, hein, après le chrono où il est complètement passé au travers à Saint-Marin. Bon, on rappelle quand même qu'au premier chrono à Bologne, il fait deuxième derrière Roglic, il fait le même temps que lui dans la montée. Donc est-ce que il a vraiment perdu de sa forme depuis, depuis 2 semaines, ou est-ce que comme il l'avait promis au départ du Giro, il voulait rester calme? Je sais pas. Oui, Charles, t'as un avis là-dessus?
Ouais, juste, enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais je suis persuadé qu'un Yates version 2018 aujourd'hui, il saute dans la roue de Lopez et Landa, il se pose pas de questions, quoi, s'il a les moyens.
C'est probable, mais le Yates version 2018, il s'est pris une demi-heure dans les dents en troisième semaine, donc.
C'est vrai aussi. Hein.
Il a peut-être aussi appris de ses erreurs, Théo.
Bah oui, non, je suis d'accord. Enfin bon, on va pas détailler le programme du week-end tout de suite, mais je pense que Yates, s'il n'a pas attaqué, c'est parce qu'il sait ce qui va arriver dans les prochains jours. Et attaquer dans le radar final, ça va pas lui permettre de reprendre plus que 15-20 secondes. Donc je pense pas que ce soit un signe d'une forme défaillante. Par contre, c'est vrai que on aurait pu imaginer que la Mitchelton, au moins pour se rassurer, montre un peu les dents. Dans le boss de 10 km. J'ai oublié le nom, je suis désolé.
Bon, et qu'est-ce que toi, puisque Yates, on l'a pas trop vu, est-ce que toi, Théo, il y a quelqu'un qui t'a marqué aujourd'hui, l'impression visuelle ou dans son attitude que t'as repéré, que tu sens en bonne forme?
Bah bon, je vais un peu te donner ton
courage.
C'est
vrai,
hein. Que Maika était vraiment très, très impressionnant, très entreprenant. Il a un peu une réputation de suiveur, mais là, on l'a beaucoup vu rouler, même dans le petit radar. Il a montré qu'il avait, de 1, qu'il avait la bonne forme, et de 2, qu'il avait l'attitude et l'envie de vouloir monter sur le podium. Et c'est vrai qu'il paraissait limite avoir un rôle de co-leader au départ de la course à côté de Formolo. Et je pense que ça peut être une des bonnes surprises de la deuxième et la troisième semaine du Tour d'Italie.
Greg, toi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a frappé? On a parlé de Roglic isolé, de Machka, effectivement, moi que j'ai trouvé pas mal, les Movistar. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour toi qui est ressorti du lot?
Non, pas vraiment. Je voulais te faire sur Carapaz, sur lequel on n'a peut-être pas assez insisté, qui paraissait en forme, qui paraissait dans le groupe des leaders, plutôt en bonne condition, parmi les tout premiers du groupe. Sinon, je suis d'accord avec vous, Maika aussi était plutôt à l'air en bonne condition et à mon avis sera offensif dans les prochains jours.
Alors, est-ce que tu penses peut-être qu'il faut se méfier de ces impressions qu'on a aujourd'hui après ce premier col? On est tous un peu excités, hein, c'est la 12e étape, ça fait 11 étapes qu'on ronge notre frein, on a enfin vu un col. D'ailleurs, ça va se demander si certains grimpeurs n'étaient pas un peu comme nous, hein, ils sont un peu partis à l'abordage, un peu comme ça. Et est-ce qu'il faut se méfier parce que finalement, c'est que le premier d'une longue liste de peut-être quoi, 30 cols en 10 jours ou est-ce que déjà, les tendances qu'on a pu voir aujourd'hui, les mecs qui ont pris un peu de temps, ceux qui en ont perdu, et ceux qui avaient l'air offensifs ou quoi, tu crois que ça va se confirmer dans les prochains jours ou qu'il faut se méfier de tout ça?
Pour ceux qui étaient en difficulté aujourd'hui, quand même, ça doit mettre un coup au moral. Car quand on voit le programme et qu'on n'est pas bien... Donc là, le jeudi soir, et quand on voit le programme, le menu affiché pour le Giro, je pense qu'il y a de quoi prendre un coup au moral et de s'inquiéter pour la suite. Après, il serait temps quand même que voilà, les leaders maintenant passent à l'offensive et attaquent leur Giro, parce qu'on est déjà, enfin, il reste finalement pas plus au bout de temps, mais on est déjà à plus de la moitié du Giro, et il est temps que la course commence finalement. Donc, alors, est-ce qu'on aura un retournement de situation, des craquages complets qu'on a vu l'année dernière avec Yates qui survolait la première semaine et a totalement explosé ensuite? Je pense que ça en est totalement différent, car le Giro commence à peine pour eux, finalement, que maintenant pour la haute montagne. C'est différent de l'année dernière.
Comme tu le dis, c'est le paradoxe. À la fois, le Giro est déjà bien avancé, et en même temps, il ne fait peut-être un peu que commencer, vu le programme qui nous attend. Alors justement, le programme, dès demain, vendredi, une étape de haute montagne, et la première arrivée au sommet réel de ce Giro 2019, une étape entre Pinerolo et le lac Cérou. Alors, il y a trois ascensions au programme. Hein. L'étape fait 195 km. Une première ascension au début d'étape pour se chauffer, j'ai envie de dire. Le Colle dell'Is, c'est 13,7 km à 6,8%. Ensuite, le Plan del Lupo, qui est une belle saloperie à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée. 14,5 km à 7%, mais je crois qu'il y a la moitié au moins de la montée qui a plus de 10%. Excusez-moi. Et enfin, la montée finale, qui est une longue montée jusqu'à 2200 mètres d'altitude. En trois temps, un premier temps assez dur, un replat, et finalement les 8 derniers kilomètres à quelque chose comme 7-8%. Bon. Charles, une étape comme celle-là, déjà, on ne peut pas mentir, quoi. On peut pas faire semblant, on ne peut pas se cacher. C'est la vérité du vélo qui va parler, quoi.
Ouais, d'autant plus qu'aujourd'hui, les coureurs ont laissé pas mal de force. Donc, je pense que ceux qui étaient en difficulté aujourd'hui vont l'être encore plus demain. Je pense notamment à des gars comme Jungels qui devraient définitivement perdre tout espoir pour le général. Après, on parlait de Yates tout à l'heure. Est-ce qu'il était moins bien ou est-ce qu'il préservait ses forces? Je pense que, bah, comme tu l'as dit, demain, on ne pourra pas se cacher. Donc, demain, on aura un meilleur aperçu de la forme de Simon Yates. On peut douter de Primoz Roglic parce qu'il n'a pas encore les références sur un grand tour. Demain, ça sera un vrai test aussi pour lui. Où là, il pourra, je pense, bénéficier du soutien de ses équipiers. Donc, il sera à armes égales avec les autres cadors dans la montée finale. Donc, il faudra voir où il en est physiquement, s'il a baissé un peu ou si, au contraire, il est toujours aussi costaud. Quoi.
Ensuite, on a, pour continuer avec le programme, parce que ça ne s'arrête pas loin de là à la 13e étape de ce vendredi, samedi, une étape sprint, comme on dit, hein, 131 km entre Saint-Vincent et Courmayeur, 100% dans le Val d'Aoste, la région en partie francophone de l'Italie. 5 ascensions en 130 km, hein, c'est, enfin 4, mais la cinquième n'est pas... Ah si, elle est répertoriée, excusez-moi, la montée finale, mais c'est un peu une fausse montée. On a deux gros morceaux, toutes les ascensions sont difficiles, hein, mais on a deux gros morceaux qui sont l'ascension de Vérogne au bout de 50 km, 14 km à 7%, et le juge de paix de l'étape à quelque chose comme 25 km de l'arrivée pour son sommet, le Colle San Carlo, 10,5 km à 9,7%, donc un gros col. Et ensuite, une descente, puis cette espèce de replat final, enfin plutôt de faux plat final, 7 km à 3-4% vers Courmayeur, pour citer un équivalent bien connu. Ça ressemble un peu à la montée finale vers Aprica, une fois qu'on a passé le Mortirolo. Théo, on sait que des étapes comme ça, avec énormément d'ascensions, en peu de kilomètres, finalement 130, généralement, il y a du spectacle et généralement, il y a des écarts aussi.
Ouais, il y a des écarts, ça part d'assez tôt. Et enfin, tu faisais la comparaison avec Aprica, là, c'est typiquement ce qu'on reste de retrouver, samedi. Ça ne m'étonnerait pas que le top 10, enfin le 10e de l'étape se retrouve déjà à plus de 4 minutes à la pédale. Bon, Charles, tu disais que la veille, on pouvait pas mentir, on pouvait pas se cacher. Là, c'est encore plus que ça. Si on a un peu montré des faiblesses la veille. J'ai envie de comparer avec ce qu'on avait vu l'an dernier avec Yates qui perd un peu de temps la veille de son gros craquage. Là, plutôt que de terminer à 25 minutes, il serait hors délai, quoi. Il y a quelque chose qui serait aussi intéressant, c'est de voir comment les rares sprinteurs qui restent vont réussir à rentrer dans les délais, parce qu'on sait que les étapes courtes, pour les délais, c'est compliqué. Donc, c'est le gros morceau de cette deuxième semaine.
Ce qui peut les aider, les sprinteurs, sur une étape comme ça, c'est que malgré tout, il n'y a pas d'arrivée au sommet, ce qui est quand même toujours plus dur aussi pour les délais. Et il y a pas mal de descentes où, généralement, ils font ça tombeau ouvert pour gagner du temps. Ça peut un peu les aider. On verra, en tout cas, pour démarrer à Kerman, même si je pense quand même que pour eux, le plus difficile, ce sera sans doute l'étape du Gavia et du Mortirolo mardi prochain. Oui, Charles.
Ouais, la question sur cette étape-là, je pense, c'est à quel moment Roglic n'aura plus l'équipier, quoi. Parce que s'il n'a plus personne au pied du San Carlo, tu as cité les pourcentages, qui a l'air d'être une vraie saloperie, je pense que les choses vont peut-être être compliquées, parce qu'après... Enfin, faut gérer hein, dans la descente s'il y a des attaques, puis en surplus un faux plat derrière où bah, c'est pas forcément les plus forts qui gagnent parce que là ça peut sortir. Après, il a été intelligent aujourd'hui. J'espère pour lui qu'il sera encore ce week-end, mais peut-être que ça sera pas suffisant s'il a pas de soutien.
Enfin, ça dépend aussi de comment, quelle sera la configuration de course, mais quand on voit la structure du classement général avec des équipes qui ont déjà deux mecs un peu loin mais encore légèrement dans le coup, c'est typiquement le genre d'étape où un lambda qui a déjà montré qu'il était capable de le faire, ou même des gens bien placés comme Yucarty vont pouvoir peut-être tenter de partir de loin, et ça peut donner une étape complètement folle, quoi.
Tu cites Landa. Landa l'avait fait sur une étape sprint dans les Pyrénées, l'année où il termine quatrième du tour à une seconde ou deux de Bardet. Il se replace au général en partant l'étape que gagne Warren Barguil avec le maillot à poids. Là, je ne me rappelle plus.
Saint-Girons, voilà. Foix.
Landa était parti tout de suite, je crois, dès le départ.
D'ailleurs, Aprica, il avait été phénoménal aussi. Non, il gagne ou il traînait à roue, je ne me souviens plus. Mais
il traîne à roue, ouais.
Il avait été très, très fort.
Plus ou moins à roue ce jour-là, je crois, de mémoire.
Ouais.
Je dis peut-être des bêtises, ma mémoire peut...
Non, je crois que tu as raison.
Et la suite encore du programme, dimanche, Greg, on a une étape. Alors, ce n'est pas vraiment une étape de haute montagne, hein, ce n'est même pas du tout une étape de haute montagne, puisqu'on ne dépasse pas les 1115 mètres d'altitude. Mais cette altitude, c'est celle du Colma di Sormano, qui est d'habitude est le juge de paix du Tour de Lombardie. Voilà, cette étape, la 15e étape du Giro, c'est finalement le même final, les mêmes 60-70 derniers kilomètres que le Tour de Lombardie de l'automne dernier, remporté par un certain Thibaut Pinot, n'est-ce pas? Avec la Madonna del Ghisallo, la Colma di Sormano, et à la fin, le final est légèrement différent, puisqu'il y a uniquement une des deux montées finales dans les faubourgs de Côme, à savoir la montée du Civilio, mais du coup, son sommet est tout proche de l'arrivée, à seulement 9 kilomètres. C'est une étape un peu, comment dire, quand on la regarde comme ça, on peut avoir l'impression qu'elle est moins importante que les étapes de haute montagne. Mais finalement, c'est une étape qui peut faire pas mal de dégâts. Quand on voit un Tour de Lombardie, les écarts qu'il peut y avoir, même si certes, c'est en fin de saison et c'est une classique, donc c'est différent d'une étape de grand tour. Mais je sais pas ce que tu en penses, Greg. C'est une étape où clairement, les favoris peuvent s'attaquer et se mettre en danger aussi.
Oui, enfin, c'est déjà une étape aussi beaucoup plus longue. Hein, il y a 230 km.
Tout à fait.
C'est une très bonne idée, je trouve, de la part du Giro, d'alterner des étapes longues et des étapes assez courtes. Et ça sera, on l'avait dit, mais là, pour contrôler cette étape-là, pour l'équipe Jumbo, ça sera aussi très compliqué. Parce que là, je pense qu'il y a de quoi s'en donner à cœur joie. Dans ces pentes qui sont assez courtes, mais avec parfois quelques petits gros pourcentages, ça permettrait d'attaquer. Il y a des descentes qui ne sont pas très faciles. Et donc, certains vont peut-être prendre quelques risques, attaquer dans la descente, accélérer pour essayer de grappiller quelques secondes. Et ça, on peut avoir pas mal de scénarios. Là, c'est une course assez difficile à lire, car ceux qui veulent attaquer, ils auront le choix. Et pour contrôler cette étape, Roglic aura beaucoup de mal à devoir s'il doit lui-même tout seul courir après tous les coureurs offensifs. Donc, on peut avoir un scénario assez fou sur cette étape. Alors, est-ce que ça va l'être ou pas? C'est difficile à dire, mais il y a de quoi faire si jamais on veut attaquer, surtout que c'est des routes que les coureurs connaissent, hein, vu qu'on les prend souvent pour le Tour de Lombardie. Donc, ils vont être à l'aise là-dessus, ils les connaissent, ils savent où il faut attaquer. Donc, on peut, hein, il y a un joli terrain de jeu pour les coureurs dimanche.
Et Charles, qui dit Tour de Lombardie, dit
Vincenzo Nibali.
Ouais, on pense forcément à lui quand on voit cette étape.
Ouais, quand tu vois le profil, tu dis direct Vincenzo Nibali, pardon. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette étape, c'est son placement, en fait. Le fait que l'étape, entre guillemets, la plus facile sur le papier, arrive en fin de la première séquence de montagne et avant une journée de repos, je trouve ça pas mal. Parce que si elle avait été avant, genre aujourd'hui, par exemple, je pense qu'elle aurait été plus ou moins escamotée. Mais là, avec la fatigue qui va s'accumuler d'aujourd'hui, justement, à samedi, Greg l'a dit, 232 bornes, ce profil veille vachement piégeux. Veille du jour de repos, ouais, du jour de repos équipe du leader. Enfin, après, on ne sait pas ce qui peut se passer. Si Sauve Roglic sera à 20 minutes dimanche matin, mais il y a tous les ingrédients qui sont nécessaires pour qu'il se passe quelque chose de grand sur cette étape, en tout cas. Enfin, c'est les coureurs qui auront la clé, mais il y a ce qu'il faut, quoi.
Théo, je sais pas, juste un dernier mot sur cette étape. Théo, je sais pas ce que tu en penses. Ça sent quand même aussi, la, un peu comme aujourd'hui, la très très longue échappée victorieuse.
Oui, bah, en plus, avec une bosse qui est là, une bosse de 5 km à peu près, dès le 8e km, on peut avoir des coureurs avec un profil de grimpeur qui vont dans l'échappée. Et enfin, moi, cette étape, elle me semble destinée pour un Androni, que ce soit Cataneo ou Masnada. Ou un coureur de ce type-là, mais ça ne veut pas dire que derrière les favoris vont se regarder. De toute manière, même s'il n'y a pas d'attaque de loin, dans le Civilio, il y aura des différences, quoi.
Alors, on l'a dit, deux grosses étapes de montagne, un 6 mini Tour de Lombardie, un Roglic esselé, un Yann Polanc qui a de l'avance. Est-ce que Yann Polanc sera encore en rose dimanche soir, les gars? C'est ça le pronostic sur lequel on va tous se tromper maintenant. Et je vais demander d'abord, alors je vois Charles qui fait déjà un signe de la tête. Pour dire non, Charles,
non.
Tu ne vois pas Polanc en rose.
Non, déjà demain soir, je pense qu'il n'est plus en rose.
Dès demain soir. Bon, alors tu vois qui dimanche soir en rose?
Dimanche soir en rose, Vincenzo Nibali.
Vincenzo Nibali. Théo?
Alors si c'est un coureur du général qui est en rose, je vois mal un autre coureur que Primoz Roglic, mais je vous propose un petit scénario rigolo. Je ne vois pas Polanc, c'est possible qu'il résiste demain, par contre... Samedi, c'est hors de question, mais il peut très bien faire partie d'un groupe. S'il décide de terminer son Giro au bout de la deuxième semaine, il peut très bien faire partie d'un groupe qui repart et reprendre le maillot. C'est vrai qu'il n'y a plus vraiment de baroudeurs de montagne assez bien placés au général pour pouvoir prendre le maillot, à part lui ou son coéquipier Conti.
Greg, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Enfin, d'accord, je pense que ce sera très dur pour Polanc de garder son maillot jusqu'à dimanche. C'est tellement dur, tellement difficile, et ça va. Et il y a tellement de coureurs qui ont du temps à rattraper que ce sera très compliqué pour lui. Et je pense qu'il va déjà être assez content d'avoir le maillot au moins pendant une journée. Mais après, pour le maillot rose dimanche, je pense que ce sera Roglic qui a quand même suffisamment d'avance pour le moment sur les autres grands favoris. Je ne vois pas perdre autant de temps. Je pense qu'il peut en perdre, mais pas autant, finalement, quitte à perdre le maillot. Je pense que, enfin, je pense qu'on ne lui reprendra pas assez de temps pour lui passer devant.
Très bien. Et puis donc, puisque vous êtes beaucoup trop rationnel, je vais raconter n'importe quoi et je vais voir Bauke Mollema en rose ce soir.
Oh là là là
Parce que
là!
la Trek prend les commandes de la course et la Trek a un plan. Voilà. On verra bien ce qu'il en sera, mais c'est vrai que on nage un peu encore dans le flou et qu'il paraît évident que d'ici dimanche soir, on y verra sans doute beaucoup beaucoup plus clair. Au classement général, grâce à ces trois étapes. Voilà, écoutez, on va se quitter là-dessus. On se retrouve justement dimanche soir à l'issue de cette 15e étape pour la traditionnelle sortie de Gimenez, bien sûr, où on aura l'occasion de débriefer ensemble les trois étapes du week-end prolongé, si je peux dire, qui auront été forcément riches en enseignements. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des pouces bleus et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Sachez aussi que vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes applis de podcast sur mobile. Ou aussi dans le podcast iTunes, si jamais vous n'êtes pas dispo pour les lives sur YouTube ou que regarder des vidéos, ça prend de la 4G ou je ne sais quoi, c'est bien aussi de pouvoir vous y abonner. Comme ça, hop, ça tombe dans le téléphone. Vous pouvez les écouter dans le métro ou dans le bus ou où vous voulez. Et c'est pratique. Voilà, n'hésitez pas à vous y abonner. On se retrouve dimanche. Bonne soirée à vous et bon week-end avec le Giro.
Au
À
revoir.
dimanche.
Tobias Gudiksen.